Prologue. 3 octobre 2022. Lorsque j'ai pénétré dans la chambre, l'infirmière m'a lancé un bref regard, puis a reporté son attention sur le patient qui gisait au creux de son lit, l'air absent. « Bonjour, monsieur », m'a-t-elle dit. « Bonjour », ai-je répondu en examinant la maigre silhouette que les draps dessinaient à peine. « Comment va-t-il ce matin ?» Les paupières de mon père ont scié. Était-il seulement conscient de ma présence? Je n'en avais pas la moindre idée. Depuis plusieurs mois, il avait cessé de parler. Il cherchait de moins en moins mon visage quand je lui saisissais la main. Il s'était progressivement enfermé dans son cerveau, où sa mémoire s'émiettait chaque jour davantage. D'un signe, l'infirmière m'a indiqué qu'elle souhaitait s'entretenir avec moi en privé. Une fois que nous avons été un peu en retrait, elle a baissé la voix. « Ça empire », m'a-t-elle soufflé. « Les crises se rapprochent et durent de plus en plus longtemps. Vous allez devoir envisager une autre solution. » J'ai contemplé avec une infinie tristesse cet homme, autrefois grand et costaud, que la maladie d'Alzheimer avait réduit à l'état de légume, une condition qui l'aurait rendu fou s'il avait été capable d'en prendre la mesure. J'avais embauché une équipe de soignants qui se relayait avec dévouement à son chevet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je savais pourtant que ça ne pourrait pas continuer éternellement et qu'il me faudrait bientôt accepter de voir la réalité en face. Sur l'oreiller, son front livide semblait figé. S'était-il assoupi? Je ne veux pas qu'il soit enfermé dans un EHPAD. C'est hors de question. Les sourcils de l'infirmière se sont froncés au-dessus de son masque. Il est désormais nécessaire qu'il intègre une structure adaptée. Vous devez prendre conscience que, s'il n'est pas rapidement admis dans un établissement spécialisé, il va mourir. Elle a fixé mon visage avec insistance, et j'ai alors compris que je n'avais plus le choix. Le jour que je redoutais tant était arrivé. Mon père allait quitter cette maison qui était tout ce qu'il lui restait. Celle où il avait cru vieillir entouré de ses petits-enfants. J'étais au supplice. Avais-je le droit de l'arracher à ses derniers repères pour le maintenir en vie malgré une maladie dont il ne guérirait jamais? Le dilemme m'apparaissait douloureux et insoluble. « Il y a une meilleure option que l'EHPAD », a-t-elle murmuré après avoir respecté un instant mon silence. « L'USLD. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Une unité de soins de longue durée. » Il y serait beaucoup mieux suivi que dans une maison de retraite classique. Je me suis entretenue avec le docteur Millet à ce sujet ce matin et lui ai confié mon inquiétude. Il m'a chargé de vous informer qu'il vous recommanderait sans hésiter auprès de ses confrères de Saulieu. Néanmoins, d'un point de vue financier, ce n'est pas tout à fait la même chose.
J'ai de quoi payer, ce n'est pas un problème.
En mon for intérieur, je savais qu'elle avait raison. J'ai observé le visage sans expression de mon père. La commissure de ses lèvres affaissées sur un rictus qui ne lui ressemblait plus. Puis j'ai invité l'infirmière à me suivre dans le couloir avec la funeste sensation de commettre un acte de haute trahison. D'accord. Ai-je lâché la mort dans l'âme. Mais je veux que tous ces meubles soient emportés là-bas et agencés de la même manière qu'ici. Et surtout, j'exige que jamais personne ne lui révèle qu'il n'est plus chez lui. S'il l'apprenait, ça le tuerait plus vite encore que cette saloperie. Ça ne posera aucune difficulté. Les soignants veilleront à garder le secret. Désirez-vous que j'avise le docteur Millet que vous souhaitez organiser le transfert de votre père? J'ai opiné et elle a disparu, son mobile à la main. De retour près du lit, j'ai rapproché un siège de celui qui, 43 ans plus tôt, m'avait donné la vie. Je lui ai parlé à voix basse, comme quand il venait autrefois me border avant de me raconter une histoire en attendant patiemment que je sombre dans un sommeil qui, la plupart du temps, était peuplé de cauchemars. J'ai entendu le murmure de l'infirmière qui transmettait ma résolution difficile au médecin, et le silence est revenu, uniquement rompu par la respiration sifflante de mon père. C'est à ce moment-là que le délabrement de la maison m'est tombé dessus. Subitement, j'ai pris conscience de ce qui crevait les yeux de tout le monde, sauf les miens. Par la fenêtre qui donne sur la cour, J'ai aperçu le poulailler en friche où aucun volatile n'avait éveillé d'écho caquetant depuis de nombreuses années. Je ne le distinguais pas de mon poste d'observation, mais je savais que le tracteur antédiluvien remisé dans le hangar s'enlisait sous la poussière et les fientes de pigeons. Le toit du bâtiment avait perdu une dizaine de tuiles au cours de la tempête de 1999, et elles n'avaient jamais été remplacées. Là où elles manquaient, une poutre rongée par l'humidité exhibait sa carie noirâtre. Au-delà, la forêt où j'allais autrefois me réfugier à longueur de journée m'a paru étrangère et hostile. Un territoire lointain de mon enfance où je n'avais plus droit de visite. Rien, désormais, ne me permettrait de rebrousser chemin. C'était un aller sans retour. Le pire des voyages quand on y est entraîné de force. Soudain, les doigts raides de mon père ont enfoncé leurs ongles dans ma paume. Il avait rouvert les paupières et me scrutait avec une lueur de désespoir qui scintillait au fond de ses prunelles, comme chaque fois qu'il cherchait en vain à me reconnaître.
« Papa ? »
ai-je demandé, la gorge serrée.
« C'est moi. »
Il m'a souri d'un air perdu et a poussé un soupir.
« Ah, Thibaut. »
J'ai acquiescé doucement. Des larmes ont roulé sur mes joues. Il me semblait si fragile, si vulnérable, que j'étais incapable de prononcer un mot. J'aurais tant voulu qu'il comprenne, qu'il accepte. Mais les médecins m'avaient conseillé la plus grande prudence. La moindre contrariété pouvait souffler d'un coup la dernière flamme qui subsistait dans ces globes décavés. Je ne voulais pas prendre le risque de briser cela et de le perdre. J'ai laissé passer un instant pour recouvrer mes esprits. Le silence s'est installé entre nous. Sa respiration sifflait toujours entre ses lèvres gercées et émettait un son aussi désagréable que du papier de verre frotté contre un morceau de fer. Je lui ai caressé les cheveux. Il ne me voyait pas. Tandis que je croyais qu'il sombrait de nouveau dans le néant, un mince filet de voix s'est élevé de son oreiller.
« Mon fils, il faut que tu saches. »
J'ai approché mon visage du sien et j'ai alors senti son haleine qui empestait la mort, comme si son corps avait déjà commencé à se décomposer de l'intérieur. Le temps s'est étiré, distordu par la boule qui encombrait ma gorge et que je ne parvenais pas à évacuer. Et il a parlé. D'un seul jet. Des syllabes hachées qui m'ont chacune cloué le cœur sur la porte de cette chambre. J'aurais aimé l'obliger à se taire, fermer à tout jamais ce robinet fétide qui arrosait mon âme d'une eau empoisonnée. Mais je n'ai pas réussi, les tempes broyées par une colère assourdissante. Quand il eut terminé, mon père est resté figé un long moment à regarder le plafond, puis ses iris incertains se sont fixés aux miens pour y chercher le pardon avant que je ne le voie replonger dans l'oubli sans l'avoir obtenu. Sans tarder, j'ai signé les papiers qui le condamnaient à l'exil, et j'ai rejoint ma voiture à pas lents, tandis que cette chose qui venait de naître en moi, cette rage, plantait ses dents pointues dans mes tripes. Chapitre 1. 27 novembre. La nuit s'effilochait en rose à la cime des arbres qui crevaient le ciel de leurs griffes anthracites. Hachée par la vapeur qui s'échappait par saccades des poumons de la jeune femme, le sentier déroulait devant elle son ruban sinueux à peine plus clair que la végétation gommée par la brume dense de l'aube. Sur ses talons, la langue en travers de la gueule, le braque haletait en cadence, son allure ajustée à celle de sa maîtresse. Alice Pernell pilonnait la terre sans prêter attention au point de côté qui lui tiraillait le flanc et lui enjoignait de s'octroyer une pause. La musique techno, pulsée par le smartphone accroché à son bras, l'incitait à ne pas faiblir. Le froid l'avait saisie avant qu'elle ne s'enfonce dans les bois à petite foulée. À présent, sous le sweat à capuche, la transpiration inondait son dos. Elle fit un écart pour éviter une branche basse alourdie par la pluie. Pepper en profita pour la doubler et la précéder de quelques mètres, le pelage mouillé, la truffe haute et les oreilles à l'affût. La jeune femme accéléra, encore et encore, jusqu'à ce que l'intensité de l'effort lui arrache un cri.